Les grands titres de ce dimanche, au moins 3 morts et des dizaines de blessés à Charlottesville aux États-Unis lors de violentes manifestations. La situation toujours tendue au Kenya après la réélection d'Uhuru Kenyatta. L'opposition parle d'une centaine de morts. Et en Australie, Ian Thorpe, l'ancien champion de natation, mène la campagne pour le oui, pour le mariage pour tous. Trois morts et plusieurs blessés après qu'une voiture ait foncé sur une foule à Charlottesville en Virginie aux États-Unis. C'était lors d'affrontements entre militants de l'extrême droite et des militants antiracistes. La voiture a percuté un groupe de militants antiracistes. Le suspect, un homme de 20 ans, a été arrêté. Le président Donald Trump a condamné cet acte de violence.
Above all else, we must remember this truth. No matter our color, creed, religion or political party, we are all Americans first. We love our country. We love our God. We love our flag. We're proud of our country. We're proud of who we are. So we want to get the situation straightened out in Charlottesville, and we want to study it, and we want to see what we're doing wrong as a country where things like this can happen.
Le président américain et puis le gouverneur de la Virginie, Terry McAuliffe, ne veut pas de militants d'extrême droite dans son État et il a déclaré l'état d'urgence en vigueur.
You are not wanted in this great commonwealth. Shame on you. You pretend that you're patriots, but you are anything but a patriot. You came here today to hurt people. And you did hurt people. But my message is clear. We are stronger than you.
Voilà le gouverneur de la Virginie. Le président américain Donald Trump a appelé le gouverneur de Guam pour rassurer de la sécurité du Pacifique face à la menace nord-coréenne. Le gouverneur de Guam, Eddie Baza Calvo, fait l'éloge de Donald Trump et Donald Trump, lui, a critiqué les trois derniers présidents américains, Clinton, Bush et Obama. Écoutez l'extrait de la conversation entre Eddie Calvo et Donald Trump.
Mr. President, as the governor of Guam, representing the people of Guam, and as an American citizen, I have never felt more safe or so confident with you at the helm.
Well, we're going to do a great job for you. Don't worry about a thing. And they should have had me 8 years ago. Somebody with my thought process, because that was the time, you could have said that for the last three presidents.
Voilà l'extrait de la conversation entre le gouverneur de Guam et le président américain. Guam, je rappelle, est une base militaire dans le Pacifique, une base militaire américaine avec 6000 soldats sur place. Olivier Lepic est chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et il ne croit pas à un conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord. Il est sur RFI.
Je ne crois pas du tout à un conflit imminent entre les États-Unis et la Corée du Nord pour une bonne et simple raison, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à ce conflit. Je pense que les États-Unis en ont certes les moyens, mais absolument pas l'intérêt. Il faut quand même se rappeler que la frontière nord-coréenne est à 55 km de Séoul et que face à Donald Trump se dresse aujourd'hui un leader qui est certes extrêmement cruel, un dictateur, mais qui est, contrairement à son homologue américain, assez rationnel dans la façon dont il mène sa politique étrangère. La Corée du Nord est aujourd'hui de fait une puissance nucléaire et évidemment la prudence, malgré les déclarations un tantinet surprenantes de Donald Trump, avec une administration qui court derrière les tweets de son président et on l'a vu hier après-midi, des tentatives d'apaisement après des déclarations enflammé de Donald Trump. Et donc, je pense que la perspective d'un conflit est assez lointaine, malgré effectivement les déclarations des deux côtés assez spectaculaires et en tout cas belliqueuses.
Olivier Lepic sur RFI. Le Premier ministre japonais a déclaré qu'il ferait tout pour protéger ses citoyens après les menaces nord-coréennes d'envoyer des missiles sur Guam, des missiles qui passeraient dans le ciel japonais. Cependant, en Corée du Sud, la vie continuait normalement hier, samedi, comme l'explique Louis Paligiano pour Radio France Internationale.
L'atmosphère est décontractée ce samedi après-midi à Séoul. Si les Sud-Coréens se plaignent volontiers de la chaleur, ils semblent beaucoup moins préoccupés par leur turbulent voisin nord-coréen, comme nous le confirme Hyun-ju, une fleuriste de 28 ans.
Nous sommes tellement habitués à ce climat de tension, ça a toujours été comme ça. Je ne m'inquiète plus, les choses finiront par se calmer.
Et Jol, un jeune restaurateur qui a étudié aux États-Unis, estime que c'est une question de génération.
Cette génération qui est née peut-être dans les années 50 ou 60 a traversé la guerre. Donc ils sont encore plus effrayés. Nous, en tant que seconde génération, nous pensons que c'est sérieux, mais nous ne nous sentons pas aussi inquiets qu'eux.
Des propos immédiatement contredits par Moon Deuk, un dynamique retraité en tenue de randonnée.
Nous ne croyons pas que ce soit très grave. Kim Jong-un est un très jeune homme et il n'a pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne les affaires internationales. On ne le prend pas vraiment au sérieux.
Alors qu'on ne ressent aucune inquiétude particulière à Séoul, au nord du 38e parallèle, la presse nord-coréenne a déclaré ce matin que 3,5 millions de jeunes et de soldats à la retraite ont déposé une demande d'enrôlement dans les forces armées.
Louis Paligiano pour RFI. L'opposition au Kenya accuse les forces de l'ordre d'avoir tué plus de 100 personnes, y compris des enfants, suite aux élections présidentielles de cette semaine. Sébastien Nemeth est l'envoyé spécial de RFI sur place. Reportage.
Le ministre de l'Intérieur et la police se sont mis d'accord. Ils ont décidé de tirer pour tuer, explique le sénateur Johnston Mutama. Interrogé pour savoir comment l'opposition pouvait avancer le chiffre d'au moins 100 victimes, l'élu répond que ces corps ne sont pas visibles dans les morgues. Ils auraient d'après lui été mis dans des sacs et cachés afin de dissimuler les preuves. C'est un état de terreur, un régime fasciste, a réagi l'ancien ministre James Orengo. Il soutient qu'une unité paramilitaire d'élite spécialement entraînée pour mater les émeutes serait à l'œuvre. L'opposition a décidé pour l'instant de calmer le jeu vis-à-vis de ses partisans. Le député d'opposition de Kibera, Ken Okot, s'est adressé à eux. Restez calmes et éloignez-vous des zones dangereuses. Ne jouez pas la surenchère avec la police. Elle est mieux armée que vous, a-t-il dit. L'élu raconte avoir tenté d'aller à la rencontre des émeutiers du bidonville, mais la police l'en a empêché. Nos forces armées devraient s'occuper des terroristes Shebab au lieu de tuer des Kenyans, a ajouté l'élu. Quant à l'élection proprement dite, la coalition maintient qu'elle ne fera aucun recours en justice. La NASA est dans une position d'entre-deux et tout le monde attend que Raila Odinga prenne la parole, mais l'opposant reste silencieux.
Sébastien Nemeth pour RFI. En France, les feux violents qui faisaient rage en Corse étaient contenus hier, samedi, en fin d'après-midi. On écoute Ange-Pierre Vivoni, le maire de Cisco en Corse, et ensuite le reportage de Florent Guignard pour RFI.
Hier, j'avais une commune qui était verte, qui était verdoyante, qui était une beauté que tous les touristes la prenaient en photo. Aujourd'hui, c'est la mer de la tranquillité de la lune. C'est un paysage lunaire. Il ne reste plus rien. Vous ne voyez que le rocher du noir. C'est incommensurable la peine que vous pouvez avoir. C'est comme si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche.
Maire de Cisco sur RTL, le vent s'est considérablement affaibli. L'incendie est désormais maîtrisé, mais la nuit dernière, au plus fort de l'incendie, près de 1000 personnes ont dû être évacuées. Témoignage de Benoît, il a vu les flammes à quelques mètres de sa maison.
De la fenêtre de la salle de bain où il y a des flammes énormes, une douzaine de mètres, largement trois fois un étage, quoi. Et le feu, ça fait du bruit, en fait. Ça fait pas que des flammes, une sorte de crépitement, mais très grave, comme un galop, quoi, qui vous arrive dessus. Ah oui, moi, j'ai eu peur, ma femme, mes enfants. Je me dis, on va perdre notre maison. On est content d'être sains et saufs, voilà. Sauver notre peau, quoi.
Au plus fort des incendies au Cap Corse, plusieurs départs de feu ont aussi eu lieu du côté de Bastia. 5 départs de feu imputés à un pyromane. Un homme de 55 ans a été arrêté en quasi flagrant délit, mais il nie. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Les pompiers corses ont reçu ces dernières heures le soutien de près de 200 pompiers venus de Marseille. Ils ont aussi reçu le soutien du président de la République.
Voilà le reportage de Florent Guignard pour RFI. En Allemagne maintenant, avec la chancelière Angela Merkel qui a lancé hier sa campagne électorale. Les Allemands élisent un nouveau Parlement dans 6 semaines. Angela Merkel, elle, brigue un 4e mandat. Reportage Stéphanie Schuller pour RFI.
C'est une Angela Merkel détendue et souriante qui arrive sur scène à Dortmund, pourtant traditionnellement un bastion de la gauche. Son slogan de campagne, pour une Allemagne dans laquelle nous vivons bien et avec plaisir. La chancelière défend avant tout son bilan, notamment en termes d'emploi. Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, le nombre de chômeurs a été divisé par deux, mais on peut faire mieux, estime la candidate.
Nous nous sommes fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici 2025, c'est-à-dire un taux de chômage de moins de 3%. Et je crois que l'on peut y arriver.
Aux yeux de nombreux Allemands, Angela Merkel représente également un rempart dans un contexte international tendu. Fidèle à elle-même, la chancelière rappelle l'importance de l'Union européenne.
Renforcer l'Europe signifie renforcer l'Allemagne. C'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de la paix, de la prospérité et dans l'intérêt de nos valeurs. Car malgré toutes les difficultés en Europe, nous partageons toujours les mêmes valeurs.
Angela Merkel parle pendant 40 minutes sans jamais faire la moindre allusion à son concurrent Martin Schulz. Mais alors que le discours est déjà fini, elle ajoute tout de même « J'aurais presque oublié de vous dire que l'élection n'est pas encore jouée. Nous avons bien évidemment besoin de chaque voix. »
Stéphanie Schuller pour RFI. En Australie maintenant, Mark Dreyfus, porte-parole de l'opposition fédérale sur les questions des lois, se demande si le Premier ministre est devenu désespéré quand une minute il attaque Bill Shorten pour être la marionnette des syndicats et une autre minute quand le Premier ministre déclare que Bill Shorten est trop proche du monde des affaires. Mark Dreyfus était l'invité de l'ABC ce matin.
It's an indication of the Prime Minister's desperation that he should resort to this kind of personal abuse. And I think anyone who thinks Bill Shorten is left wing should actually look at his record in the federal parliament and his time before entering the federal parliament. It's not left wing to be concerned about inequality in Australia. It's actually the right thing. Any social democratic party would be concerned about that. It's not left wing to be concerned about taking action on climate change or having a coherent energy policy.
Voilà Mark Dreyfus de l'opposition fédérale. Ian Thorpe, l'ancien champion de natation, se joint à la campagne pour le mariage pour tous. On l'écoute.
I think it's important because we've seen kind of the inequality that's existed for gay, lesbian, transgender, the LGBTIQ community. And, you know, this is the process that we now have, whether we agree or disagree with it. And I think Australians just want to give everyone a sense of a fair go.
Ian Thorpe, le ministre de l'énergie Josh Frydenberg, est confiant que le vote postal aura bien lieu malgré le challenge contre le scrutin lancé dans les tribunaux. Et si les Australiens disent oui en majorité pour le mariage pour tous, le Parlement voterait pour légaliser la loi, nous dit Josh Frydenberg.
As you know, many people have strong views on this issue, but judging by the numbers in the chamber, if a free vote is brought to bear under that scenario of a successful yes plebiscite, then I'm very confident it will get the numbers in both chambers.
Voilà, le ministre était sur Sky News ce dimanche matin. Il soutient le mariage pour tous, mais ne prendra pas part activement à la campagne pour le oui. Le gouvernement fédéral lance la campagne qui va coûter 5,5 millions de dollars pour encourager les parents de vacciner leurs enfants. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, déclare que les parents seront ciblés via les réseaux sociaux et dans les centres de garde d'enfants. Selon les chiffres officiels, 9 sur 10 enfants qui ont autour de 5 ans sont vaccinés. Et puis la municipalité de Moreland, au nord de Melbourne, étudie la possibilité de permettre aux sans-abri d'ériger des tentes dans des places publiques. La municipalité demande au public de se prononcer sur le plan. La maire de Moreland, Helen Davidson, est sur l'ABC et elle voudrait que la municipalité puisse aider celles et ceux dans une situation désespérée.
The idea of it is not so much about camping in public places, but it's to allow people who are experiencing difficulties or homelessness to not be prosecuted if council officers come upon them.
Helen Davidson, maire de Moreland. Un mot de sport avec l'AFL International Cup en Australie. Quelques résultats d'hier du troisième round. L'équipe masculine de France battue par Nauru 106 à 14. Et puis la Nouvelle-Zélande a battu le Canada 62 à 6. Chez les dames, les European Crusaders, où il y a une dizaine de Françaises qui jouent dans cette équipe, eh bien, Le match a lieu en ce moment contre les Américaines à l'Université de Melbourne. Et puis les Canadiennes jouent également en ce moment contre les Anglaises. C'est au Plenty War Memorial Park au nord de Melbourne. Et vous pouvez suivre ces matchs en direct sur AFL International Cup Streaming, afl.com.au/international-cup/streaming. Coup d'œil météo pour ce dimanche. En Australie, Perth maximale de 18 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 17, Hobart 13, Canberra 16, Sydney 21, Brisbane 26, Cairns 28, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 31 degrés. Rappel des grands titres de ce 13 août, au moins 3 morts et des dizaines de blessés à Charlottesville aux États-Unis lors de violentes manifestations. La situation toujours tendue au Kenya après la réélection d'Uhuru Kenyatta. L'opposition parle d'une centaine de morts. Et puis en Australie, Ian Thorpe, ancien champion de natation, mène la campagne pour le oui pour le mariage pour tous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench